Pages arrachées à Nicolas Bouvier. La route vers l'Orient. Texte choisi et présenté par Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Igor Menjiski, Arnaud Bédoué, Sarah Caponi. Quatrième épisode, Île de Ceylan.
J'avais dormi d'un trait, à côté de la voiture, sous un arbre pipal solitaire, face aux dunes jaunes qui bordent le détroit d'Adam et à la mer pommelée de moutons blancs. La descente de l'Inde avait été une merveille. Aujourd'hui, j'allais quitter ce continent que j'avais tant aimé. La matinée était chargée de présages et plus légère qu'une bulle. À toutes ces propositions, la réponse était oui. Je refaisais machinalement le bagage en regardant de minces silhouettes noires culottées d'un chiffon carmin s'affairer autour d'un petit moulin de canne à sucre à un jet de pierre de mon bivouac. Une fille, vêtue d'un sarong du même rouge, venait de leur apporter leur repas. J'avais mis la main en casquette pour mieux voir ses magnifiques seins nus dans le crépitement de la lumière. Par-dessus le ressac, j'entendais les voix chaudes et précipitées et le grincement des calandres de bois. Le temps était suspendu. Dans ce gracieux agencement d'échos, de reflets, d'ombres colorées et dansantes, il y avait une perfection souveraine et fugace et une musique que je reconnaissais. La lyre d'Orphée ou la flûte de Krishna. Celle qui résonne lorsque le monde apparaît dans sa transparence et sa simplicité originelle. Qui l'entend, même une fois, n'en guérira jamais.
Mars 1955. Nicolas Bouvier arrive à Ceylan. Il vient de traverser seul l'Inde du nord au sud en 3 mois, depuis Kaboul jusqu'à Madurai. Thierry Vernet et lui se sont séparés en Afghanistan. Ils doivent se retrouver dans le sud de l'île de Ceylan, à Galle, où Thierry doit se marier avec Floristella. Nicolas arrive juste à temps pour la cérémonie. Ils resteront ensemble 2 mois avant que Thierry et sa femme regagnent la Suisse.
Très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas un endroit pour moi. Mes amis étaient usés par le climat et très agacés par les difficultés auxquelles ils avaient été confrontés. Ils avaient fait une superbe exposition à Colombo et n'avaient quasiment rien vendu. Ils sont rentrés pour se refaire une santé. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de regagner l'Europe. J'avais une petite chambre agréable. Cette ville était tout à fait fantomatique, mais très belle. Et à ce moment-là, j'étais attaqué à la fois par une amibiase, la malaria et la jaunisse. J'étais bien trop faible pour envisager de reprendre la route.
La chambre coûte 1 roupie par jour. Le soleil ne coûte rien. Il l'allume, il s'y promène, il y fait naufrage dans des murs crépis d'un outre-mer indicible que l'humidité festonne de taches plus sombres. 8 pas de long, 4 de large. Un plancher patiné jusqu'au noir. Les poutres enfumées qui disparaissent dans l'obscurité du toit font penser à une carène renversée ou au cintre d'un modeste théâtre incendié. Un balcon sous un auvent de tuiles vernies d'où l'on voit la cour intérieure avec son puits, l'échine d'un toit, la bascule lente et si préoccupante de l'horizon marin. Le lit est un cadre de bois tendu de cordes. Une table à tiroir, une chaise, une étagère surmontée d'un Bouddha haut comme la main, dont le visage attentif est à moitié rongé. C'est tout. C'est propre, solennel, énigmatique, et me paraît parfaitement convenir au peu dont ma vie sera faite ici. S'installer dans une chambre pour une semaine, un mois, un an, est un acte rituel dont beaucoup de choses vont dépendre et dont il ne faut pas s'acquitter avec un esprit brouillon. Ne pas engorger une frugalité qui est salubre. Limiter ses interventions. Surtout, ne pas bousculer les rapports de ton. Dans une chambre digne de ce nom, les couleurs ont pris le temps de s'expliquer, de parvenir par usure et compassion réciproque à un dialogue souhaité et fructueux. Ici, ce bleu et ce noir ont abouti à quelque chose qui ne doit rien au hasard. Je me suis mis au travail, une flaque de sueur sous chaque coude, en sachant bien que je trichais, que j'avais peur, que je m'attachais au mât comme Ulysse. Il s'agit d'autre chose ici. La nuit regorgée de lenteur et d'un silence interrompu seulement par le bref galop des chèvres qui tondent les bastions ou le bourdonnement de je ne sais quelle bête dans ma toiture. Pour me donner du cœur et garnir un peu mon carquois, j'ai fait le compte des chambres où je suis passé depuis mon départ. C'est la 117e. La prochaine risque d'attendre longtemps son tour. Il faut bien s'arrêter de temps en temps pour apprendre à faire sa musique, faire un peu chanter ses élytres, non ? Avant-hier matin, comme je mangeais mon pain, je me suis aperçu que c'était lui qui me mangeait la bouche. Le sang cognait dans les gencives enflées, en dessinant la bordure de chaque dent, le parcours de chaque nerf, comme dans une esquisse vésalienne. Forte fièvre et vomissement continuel. Pour tirer quand même parti de la capitale où je n'ai rien pu mener à terme, je suis allé me faire examiner le sang, les poumons et arracher deux molaires perdus dans un dispensaire, soins gratuits, de la banlieue nord. Haute villa aveugle et décati dans un jardin dont la nature reprenait possession en douceur. Trouver là-bas deux médecins, deux infirmières, trois douzaines de croquants hilars, rongés de maux divers qui me paraissaient bien résolus à terminer leur vie ici, où la nourriture est suffisante, la compagnie assurée et où ils sont soulagés sinon guéris. Petite cour des miracles qui, après un instant de stupeur, m'a fait fête comme si l'arrivée d'un sahib occidental garantissait la qualité des soins qu'ils reçoivent ici. Pas l'ombre d'une formalité, une routine accueillante. En fin d'après-midi, les radios prises dans la journée sont passées dans un vétuste épidiascope et projetées sur un drap pour notre édification. Poumons mités, bronches d'étoupe, échines mangées d'ostéoporose. Nous étions tous là à jouir du spectacle, à voir défiler fraissures et anatomies ravagées avec des hauts, des bas, des chutes. Excités et rigolards comme au cinéma. Nous sommes loin du centre et les distractions ne sont pas si nombreuses. Quand sont apparues mes vraies pompes à air de riche, à peine ombrées et entamées, ça a presque été l'ovation, comme si j'avais marqué un but en solitaire. Tous ces souffreteux se réjouissaient en somme de me voir si bien équipé pour leur survivre. C'est le moment que j'ai choisi, en plein triomphe, dans les compliments et les bourrades, pour m'évanouir comme une diva étourdie par les fleurs. Revenu à moi, déjà bordé dans un lit propre, un visage sombre et préoccupé, peau à large port, penché sur le mien. Stéthoscope, lunettes à double foyer, dans lesquelles l'image de la chambre me parvenait inversée, portée sur une sorte de houle. Entendu une voix qui disait, chaque syllabe détachée comme des sous tintant dans la poche. « Never think you are alone ». Puis parler typhoïde avec un collègue égaré hors de mon champ visuel et de me garder un peu ici. Il se trompe. J'ai fait mes vaccins et serai sur pied plus tôt qu'il ne le pense. Mais deux jours dans des draps frais seront les bienvenus. Vu une blatte courir sur le col défraîchi du docteur, palper l'air de ses antennes comme pour me demander conseil, plonger dans l'échancrure de la blouse, et suis retombé paisiblement dans le noir. Le toubib n'avait pas menti. Aucun risque d'être seul ici. J'ai toujours un va-et-vient de tousseux et d'édentés autour de mon lit. Des commères aux flancs larges comme des barcasses, les yeux ternis de trachome, m'essuient le front avec leur mouchoir. Un vieillard me fourre en tremblant dans la bouche la chique de bétel qu'il vient à peine de commencer. D'autres se contentent de s'asseoir sur leur bilon et de sourire. À travers l'ouate de la fièvre, je vois ces vieux visages ahuris s'allumer comme des gares. compassion de gens qui n'ont plus rien à perdre et dont je fais en hâte provision. Tout de même, cet essaim de sollicitude, il m'accompagne jusqu'aux toilettes, fatigue. Quand elle veut me faire une piqûre ou quand elle juge que c'en est trop, l'infirmière chasse mon escorte comme des mouches. Il se débande alors en clopinant et en pouffant. Cette déroute qui me fait rire m'a fait aussi penser, éclair de nostalgie burgonde, à une famille de bolets bouffés par les limaces. Mon voisin de lit est le seul à ne pas participer à l'allégresse générale. C'est un astrologue du sud de l'île, donc presque de chez moi, qui parle un anglais châtié, considère sa présence ici comme une déchéance et ne manque aucune occasion de nous le faire sentir. Il était spécialisé dans les horoscopes de chevaux de course. On joue ici encore plus que dans ma ville, qu'il vendait, de mèche avec les bookmakers, à des parieurs toujours échaudés. Il avait négligé de faire le sien. Avant-hier, le sabot d'une jument vicieuse lui a défoncé le thorax. Cette ruade qui n'était pas inscrite dans les étoiles lui laisse juste quelques heures à vivre. Comme les chevaux ne viennent pas aux heures de visite, il est d'avis que je lui vole sa mort en tenant ainsi la vedette. Voudrait bien aussi un peu de compagnie et que quelqu'un lui ferme les yeux. Ce qui est naturel. L'infirmière l'a fait cette nuit. Avril. Première semaine de la mousson du sud-est. Par une mystérieuse osmose, les visages et les corps se gonflent d'humidité. Les clients de l'auberge ont l'air d'avoir été bouillis. Hier, le postier, avec ses yeux mobiles et porcins, était comme une cosse sur le point d'éclater. Deux lettres. Ma mère. Et quand j'ai vu l'autre, mon cœur a manqué s'arrêter. J'ai donné une roupie au facteur pour qu'il décampe au lieu de tripoter interminablement, comme il a coutume de le faire, les quelques objets qui ont bien voulu me suivre jusqu'ici. L'autre lettre, ces grosses boucles désinvoltes qui galopent à travers l'enveloppe. Voilà 6 mois que je l'attendais. Que fait-elle de sa vie? Dans quelle compagnie? Qui a-t-elle mis dans son lit brûlant d'herbes et de feuilles? Nous retrouverons-nous l'an prochain en Californie, où Harper's Magazine m'a offert du travail? C'est une lettre épaisse qui contient un petit objet dur. Je n'ai pas osé l'ouvrir avant d'avoir essayé de faire basculer la journée en ma faveur. Le voyage, comme la modicité de ma vie, m'ont rendu un brin ritualiste. Rasé, douché, balayer ma chambre comme un moinillon faisant ménage dans sa cellule avant d'ouvrir son missel. J'ai même frotté à l'huile de palme le Bouddha posé sur ma crédence pour nourrir le bois jusqu'à ce que sa petite gueule écornée par les termites s'allume de plaisir. Suis passé par le marché et revenu avec une galette de thé noir à gros brins, une livre de petits citrons verts, une canette de bière, une tranche d'espadon bordée d'une peau bleue ardoise aussi solide que du cuir. Une boîte de cigarettes Peacock. Ces emplettes, disposées autour de mon réchaud Primus, suggèrent l'idée d'un homme sûr de son fait, ferme dans ses propos. J'ai travaillé tout l'après-midi. J'avais couvert 3 grandes pages quand un scorpion noir a dégringolé des poutres de mon plafond dans mon bol de thé. Étourdi, poussé par un frangin blagueur, je vois à sa taille que c'est un blanc-bec de la dernière pluie. Absolument paniqué. Je sais maintenant comment m'y prendre avec ces petits joyaux héraldiques. Les attraper entre le pouce et l'index, juste sous l'aiguillon. Je l'ai posé sur le plancher, qu'il a traversé comme un éclair, pour disparaître dans une crevasse du mur où il attendra que sa maman vienne le chercher. Elle est justement du signe du scorpion et très belle de figure. C'est donc ma journée de bonté. J'ai rangé mon travail et tiré ma chaise sur le balcon pour regarder le grand chromo chiqué du crépuscule pendant que mon espadon mitonnait dans les citrons. À rêvasser, le menton dans les mains.
pourquoi dans toutes nos langues occidentales, dit-on, tomber amoureux ? Monter serait plus juste. L'amour est ascensionnel, comme la prière. Ascensionnel et éperdu. Chez les insectes isoptères, tout individu sexué reçoit aussitôt sa paire d'ailes. Je la revoyais une nuit à mes côtés, sur la jetée du port de ma ville natale. L'été, le silence, l'approche de l'aube. Je la connaissais d'une semaine. Je la trouvais superbe. Nous marchions du même pas, sans aucun bruit. Je reconnaîtrai sans peine l'endroit où j'ai senti comme une aveuglante déchirure dans le noir, où j'ai eu les poumons dévorés de bonheur. La vie d'un coup acéré, musical, intelligible. Surtout, ne rien dire. Du coin de l'œil, j'ai essayé de voir où elle en était, elle. Demi-sourire retroussé sur les dents blanches, longue foulée, la crête d'une vague. Pas un mot. Il fallait pourtant faire quelque chose. J'ai embrassé le grand mât verni qui se dresse sur le môle et suis grimpé jusqu'au sommet sans ressentir l'effort. Là-haut, les dernières lumières de la rade reflétaient sur l'eau sombre. Elle, pas plus grande qu'un plant de rosier. Il faut croire que cette forme d'aveu a aussi son éloquence. Quand j'étais redescendu hors d'haleine, les mains pleines d'échardes, je l'avais trouvée folle de rire, les yeux brillants d'impatience, déjà à moitié dévêtue. Montez.
La lettre, expédiée 2 mois plus tôt de Hambourg par poste de mer, contenait son faire-part de mariage sur lequel elle avait griffonné « Désolé, ciao et bon voyage » et un poisson d'or, « Je suis poisson », long comme l'ongle du petit doigt. 2 ans déjà. Dieu comme le temps passe. Est-ce la Claude qui a écrit « Le pire dans la jalousie, c'est qu'elle survive si longtemps à l'amour ». J'avais bien peur que cette fois, ce ne fût le contraire. Je n'étais pas jaloux. J'étais parti trop loin et trop longtemps. Tout ce que j'avais pu lui écrire ne m'avait pas empêché de devenir une ombre. J'allais prendre dans ma valise la photo qui m'avait si souvent porté secours et regarder une dernière fois ce visage éblouissant avant d'y mettre le feu avec mon briquet. Puis je descendis faire cadeau du poisson à l'aubergiste en lui expliquant qu'il s'agissait d'un signe du zodiaque occidental chargé de bénédictions qui ne pouvait donner prise à aucune opération de magie noire. Il a passé un fil de soie rouge dans le minuscule anneau qui terminait la queue et a suspendu l'amulette au cou de son fils Pouta. Désolé. Et moi donc ? Une raison de moins de regagner l'Europe. Désormais, chacun sa vie, et chacun sa musique. Pour quelque temps, la mienne ne serait qu'un grincement. Chacun sa guerre aussi. La mienne, qui ne sera jamais gagnée, n'en serait pas facilitée. Des haillons d'un rouge vineux s'effilochaient encore dans le ciel presque noir. C'en était bientôt fini de la grande débandade des couleurs. Moi aussi. J'étais comme un général en déroute dont les armées auraient, dans le temps d'un éclair, mystérieusement fondu. Tenter de me remettre au travail pour faire pièce aux images qui venaient me trouver. Si l'on savait à quoi on s'expose, on n'oserait jamais être vraiment heureux. En reprenant l'Ancien Testament, je suis tombé sur ces 3 mots. Jacob demeura seul. Et encore, la hanche déboîtée pour avoir lutté avec l'ange. Pas l'ombre d'un ange ici. Je m'en tire mieux que lui. Ressaisis-toi, Caliban. Réveille-toi, gribouille, avec tous tes trajets, tes projets, cette marotte d'aller et venir, de changer d'horizon toujours.
ce que tu n'as jamais cessé de chercher est peut-être ici, maintenant, dans cette chambre torride, à portée de ta main, tapis dans le noir, et seulement dans le noir.
Je ne me suis pas rendu compte à quel point le climat était débilitant, et je suis devenu de plus en plus faible et malade. Je me suis enlisé. Et il a fallu arriver au fond du sac, en danger, pour que je m'arrache de cette île après 9 mois, c'est-à-dire 7 de trop.
Nicolas va rester plusieurs mois à Ceylan. Malade, déprimé, il manque y perdre la raison. Il parvient à quitter l'île et à embarquer le 11 octobre 1955 sur le Vietnam, un bateau français des messageries maritimes qui effectue la liaison Colombo-Yokohama.
Il régnait un climat étrange et malsain du fait de la pratique constante de la magie noire ou blanche, le plus souvent noire. Et j'avais le sentiment que cette île me posait une question à laquelle je ne trouvais pas de réponse. J'ai eu une sorte de mauvaise obstination. J'aurais dû filer alors que j'en avais encore la force, au lieu de quoi je me suis mis à descendre en spirale, comme une feuille morte. J'ai été l'objet d'un enchantement négatif. C'est pourquoi j'ai eu tant de peine et j'ai dû laisser tant d'eau couler sous les ponts avant d'écrire cette histoire. Je n'avais aucune envie de retourner là-bas en esprit, tout en y retournant constamment, hanté que j'étais par cette défaite, cette débandade, cette déconfiture, cette perte progressive du contrôle de soi.
Ce séjour à Ceylan inspirera une autre de ses œuvres, Le poisson scorpion.
J'ai écrit ce livre quasiment en transe, sur des flots de whisky et de musique. J'en avais besoin pour pouvoir retourner dans cet incubateur où j'avais laissé un peu de ma raison. J'étais obligé de l'écrire pour me débarrasser de ce mal. Dans une large mesure, j'y suis arrivé en écrivant le mot fin, mais pas complètement. Il y a encore une sorte de malheur résiduel, un noyau central noir que je ne suis pas parvenu à faire fondre, sans doute parce que je n'ai pas poussé les fourneaux à une température suffisante. C'était vraiment ce que j'appelle l'écriture-exorcisme. Il y a des choses dont il faut se débarrasser en les mettant en forme. Ensuite, elles sont prises dans la forme. C'est comme un démon qu'on enferme dans une bouteille, le djinn de Sindbad le marin, ou ces insectes du Pliocène qu'on retrouve dans des morceaux d'ambre jaune. L'alcool et la musique ont été mes deux béquilles pour écrire ce livre. Il est toujours pénible de faire l'analyse d'une défaite. Cette île m'a eu, et j'essayais de savoir comment elle s'y était prise pour muser les nerfs à ce point.
C'était « Pages arrachées » à Nicolas Bouvier, « La route vers l'Orient ». Texte choisi et présenté par Laurent Martin. 4e épisode, avec Igor Menjiski, Arnaud Bédoué, Sarah Caponi. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramore. Réalisation, Michel Sidoroff. Extrait du Poisson Scorpion aux éditions Gallimard et de Routes et Déroutes aux éditions Métropolis.